On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Filles de science, elles nous font voir des étoiles. Un texte de Camille Lopez, paru le 11 février 2025 dans les As de l'Info. Le 11 février, on célébrait la Journée internationale des femmes et des filles de science. Avec une éclipse, des astronautes pris dans l'espace, des planètes drôlement alignées et une météorite qui tombe au Canada, tu as peut-être déjà compris qu'aux As, on aime ça les sujets spatiaux. Alors, pour l'occasion, on te présente sept femmes qui ont fait de l'espace leur terrain de jeu. Farah Alibé. Farah Alibé a grandi à Joliette, au Québec. Son métier, ingénieure en aérospatiale. Ça veut dire qu'elle travaille sur des machines qui vont dans l'espace. L'une de ses plus grandes missions, téléguidé, piloté à distance, le robot de la NASA Perseverance, dont le rôle est d'explorer la planète Mars. Oui, oui. Farah a aussi écrit deux livres, « Mon année martienne » et le roman jeunesse « Najma dans les étoiles ». Les calculatrices humaines. Dans les années 1930, la NACA, l'ancêtre de la NASA, avait un très gros objectif, envoyer des astronautes dans l'espace et surtout sur la Lune. Mais c'était avant les puissants ordinateurs. Alors, l'organisation a engagé des centaines de femmes chargées de faire plein de calculs compliqués à la main. Parmi elles, trois femmes noires se sont distinguées. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. Grâce à elles, fusées, satellites et navettes ont navigué dans l'espace en toute sécurité. Et ce, malgré les difficultés rencontrées à cause de leur couleur de peau. Par exemple, les femmes noires devaient travailler dans une section séparée des blancs. Ça a changé en 1958 quand la NACA est devenue la NASA. Roberta Bondar. Au Canada, on a notre propre version de la NASA, l'Agence spatiale canadienne. En 1983, un grand appel a été lancé pour recruter les premiers astronautes canadiens. Plus de 4000 personnes ont tenté leur chance, mais seulement 6 ont été retenues. Parmi celles-ci, une seule femme, Roberta Bondar. Parlons-en. Roberta, c'est une neurologue, médecin spécialiste du cerveau, et la première Canadienne à être allée dans l'espace. En 1992, elle a passé 8 jours dans l'espace. Elle en a profité pour observer comment le corps humain change quand il n'y a pas de gravité. Makena Kozik. C'est un nom que tu entendras fort probablement dans les prochaines années. Makena, c'est une jeune Canadienne de l'Alberta dont le rêve est d'aller dans l'espace. Mais avant, elle aimerait que le domaine de l'aérospatiale accepte davantage de filles et soit plus ouvert à la diversité des genres. Elle a donc fondé Mission Spacewalker, qui aide les aspirants astronautes issus de ces groupes à développer leurs talents. Maintenant, à 23 ans, Makena est de plus en plus près de réaliser son rêve. Elle vient de commencer sa maîtrise pour devenir pilote d'essai. Ça veut dire qu'elle apprend à tester les appareils, comme les avions, pour s'assurer qu'ils sont prêts à voler et sécuritaires. Marie Makwate. Marie Makwate vit au Cameroun, en Afrique. Elle est une experte dans le domaine géospatial. Ce que ça veut dire, qu'elle utilise des satellites pour récolter des données géographiques. Quand une catastrophe naturelle survient, la mission de Marie commence. Analyser les images satellites pour créer des cartes pour les équipes de secours et l'aide humanitaire. Elle les guide et leur indique, par exemple, où un cours d'eau se trouve, où un bâtiment est situé, pour qu'ils sachent où aller et sauvent le plus de vies possible. Marie dit haut et fort que plus de pays africains devraient avoir leurs propres satellites. La Journée internationale des femmes et des filles de science est-elle soulignée à ton école? Dis-moi comment. Six choses à savoir sur la mystérieuse anguille. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 17 février 2025 dans les As de l'Info.
Wesh! Burke!
Maman, j'ai peur! La pauvre anguille provoque des réactions négatives. Il faut dire que ses allures de serpent et sa peau gluante n'aident pas beaucoup. C'est pourtant un animal fascinant. Mais l'anguille devient de plus en plus rare partout dans le monde. Le gouvernement du Canada essaie de la protéger en limitant sa pêche. Je te la présente. 1. Poisson ou serpent? L'anguille est bien un poisson malgré son air de ver de terre des mers. L'anguille d'Amérique est la plus répandue dans l'est du Canada. Elle a longtemps été un aliment de choix pour les Premières Nations qui la pêchent toujours. La femelle est plus grande que le mâle et peut mesurer jusqu'à 1 mètre. 2. Elle est eurialine. Hein? Cela veut dire que l'anguille peut vivre dans l'eau salée et l'eau douce. Elle naît dans la mer, mais grandit dans les lacs et les rivières. Le saumon aussi est un poisson eurialin. 3. Une grande voyageuse. C'est seulement depuis 2015 qu'on sait où vont les anguilles pour se reproduire. Tiens-toi bien. Toutes les anguilles d'Amérique naissent et se reproduisent dans la mer des Sargasses au large de la Floride. Vers l'âge de 4 ans, les jeunes poissons quittent la Floride pour aller au nord. Puis, à 20 ans, les adultes retournent à leur lieu de naissance pour se reproduire et ensuite mourir. Un poisson parcourra donc en moyenne 8000 kilomètres dans sa vie. 4. Attention, fragile. L'anguille d'Amérique est une espèce menacée depuis 2012. Qu'est-ce qui nuit à sa survie? La pêche intensive des jeunes anguilles, qu'on appelle les civelles. Elles sont vendues en Asie, où l'anguille est beaucoup cuisinée. Le prix d'un kilo de civelles peut atteindre 5 000 $. Tu comprends que c'est tentant d'essayer de les capturer en grande quantité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada limite la pêche. L'autre menace pour les anguilles, les barrages hydroélectriques sur les rivières. Ces constructions leur bloquent la route. Certains poissons se blessent ou meurent dans les turbines. Mais il y a de bonnes nouvelles. En 2024, à Saguenay, au Québec, la communauté autochtone Huron-Wendat a installé des passages sur la rivière AA. Résultat, on compte maintenant 18 115 anguilles dans la rivière, alors qu'elle n'était que 700 en 2023. 5. L'anguille électrique. Tu as déjà entendu que l'anguille produisait de l'électricité? J'ai le regret de te dire que ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ce poisson électrisant s'appelle la gymnote et est plus proche des carpes ou des poissons-chats que de l'anguille. La gymnote vit en Amérique du Sud et produit bel et bien des décharges électriques qui peuvent atteindre 800 volts. Pour comparer, les prises électriques de nos maisons sont de 110 volts. 6. Il y a anguille sous roche. Connais-tu cette expression? Elle veut dire qu'il y a quelque chose de louche ou de caché qu'on ne nous dit pas tout. La vérité se cache comme l'anguille sous les roches des rivières. Toi, quel animal trouves-tu fascinant? Pourquoi on fait tout un plat avec le prix des œufs? Un texte de Camille Lopez, paru le 15 février 2025 dans Les As de l'Info. Aux États-Unis, le prix des œufs a beaucoup augmenté. On pourrait même dire qu'il s'est envolé. C'est à cause d'une maladie qui touche les poules et les autres oiseaux, la grippe aviaire. Et nous, au Canada, doit-on craindre pour nos cocos? Avoir la chair de poule? Bonne nouvelle, selon un expert, nos œufs sont épargnés pour le moment. Voici pourquoi. Ce qui se passe aux États-Unis. Pour nourrir les 335 millions de personnes qui vivent aux États-Unis, il en faut des cocos. Alors, des millions de poules sont élevées dans des gigantesques fermes où l'on récolte leurs œufs. Mais depuis 6 mois, la volaille américaine tombe très souvent malade. Elle attrape la grippe aviaire. Malheureusement, la maladie a forcé des éleveurs à tuer des millions de poulets pour limiter la propagation du virus. Alors, il manque d'œufs aux États-Unis. Résultat, le prix des cocos a grimpé et faire des omelettes coûte pas mal plus cher qu'avant. Par exemple, dans certaines épiceries américaines, une douzaine d'œufs peut coûter 14 $. Au Canada, on s'attend plutôt à payer de 4 $ à 7,50 $. Les œufs canadiens vont bien. Pour le moment, chez nous, l'industrie des œufs ne perd pas trop de plumes. Selon un expert du milieu agroalimentaire, Sylvain Charlebois, la grippe aviaire n'a pas encore eu d'impact sur le prix de nos œufs. Parce que oui, même au Canada, cette maladie affecte nos poules. Mais beaucoup moins que chez les Américains, même si nos pays sont à côte. Pourquoi nos poules sont-elles moins touchées? C'est pour 3 grandes raisons, explique Sylvain Charlebois. 1. Les éleveurs s'entraident. Au Canada, on a des producteurs agricoles qui travaillent ensemble et qui partagent de l'information dès qu'il y a des animaux malades, dit M. Charlebois. Aux États-Unis, cette collaboration est beaucoup moins fréquente. 2. Des fermes espacées. Si tu regardais les élevages américains à vol d'oiseau, tu remarquerais qu'ils sont assez collés les uns sur les autres. Les maladies se transmettent donc plus facilement. Au Canada, nos fermes sont plus éloignées. 3. Un froid polaire. Au Canada, il fait généralement beaucoup plus froid qu'aux États-Unis, et le froid, ça ralentirait la propagation de la grippe aviaire. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas attraper la grippe aviaire en mangeant des œufs ou du poulet bien cuit. Et c'est très rare qu'un humain attrape cette maladie. Heureusement. Alors, combien de jeux de mots autour des œufs et des poules as-tu compté? Pour Mathis, son TDAH est un super pouvoir. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 12 février 2025 dans Les As de l'Info. Puisque ce sont les journées de la persévérance scolaire, j'avais envie de te faire connaître Mathis, qui a un TDAH. L'an dernier, alors qu'il était en secondaire 2, Mathis a été expulsé de son école. Ce choc l'a fait énormément cheminer. Depuis, il travaille fort pour pouvoir retourner à son école et il voit aussi autrement sa différence. Aujourd'hui, il la qualifie même de « super pouvoir ». J'ai parlé à ce persévérant qui a donné une conférence sur son parcours. Mathis, explique-moi donc pourquoi on t'a renvoyé de ton école. J'ai un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. T-T-A-H. J'ai toujours eu de la difficulté à l'école. Pas au niveau des notes, mais du comportement. J'étais à la même école depuis la maternelle. Je m'en sortais toujours. Après tant d'années, c'était comme un jeu. Je me sentais invisible. Mais l'an dernier, j'ai vraiment dépassé les limites et on m'a expulsé. Ça t'a secoué? Oui. Quitter la seule école que j'ai connue, mes amis, je me suis remis en question et j'ai décidé de voir les choses autrement. Mon TDAH me donne une énergie inépuisable et beaucoup de créativité. C'est un atout. Je me suis donné comme objectif de retourner à mon école. Je veux montrer qu'on peut changer. En janvier, Mathis a raconté son histoire lors de TEDxVille Mariéd, une journée de conférence à Montréal qui célèbre le monde de l'éducation et la jeunesse. Comment vas-tu t'y prendre? Je suis en train d'amasser des lettres de recommandation de mes profs actuels. J'ai mes bulletins. Je veux prendre rendez-vous avec le directeur de mon ancienne école et lui présenter tout ça. C'est ce qui te motive en ce moment? Oui. J'ai besoin d'avoir des buts. Je veux devenir entrepreneur en technologie et en immobilier. Pour ça, je veux aller dans les meilleures écoles. Alors je fais ce qu'il faut maintenant pour y arriver. Que fais-tu en plus d'étudier? Je travaille l'été. L'an dernier, j'avais deux emplois. Je cueillais des bleuets le jour et le soir, je travaillais dans une épicerie. J'ai tout mis de côté. J'économise pour pouvoir un jour me lancer en affaires. Comment fais-tu pour rester motivé? C'est certain qu'il y a des jours où c'est moins facile. Mais je sais que j'avance et ça me motive. Par exemple, la conférence m'a permis d'avancer. C'est beaucoup de préparation, entre 50 et 100 heures. Mais je l'ai fait. Un conseil en terminant? Je me dis toujours, quand t'es à terre, tu peux toujours te relever. Toi, si tu avais à donner une conférence, ce serait sur quel sujet? Les chiens du Manitoba agitent la queue pour cette bonne nouvelle. Un texte de Clémence Tessier, La Liberté, paru le 17 février 2025 dans les As de l'Info. Une décision des vétérinaires du Manitoba va changer la vie des chiens de cette province. Désormais, ils ne pourront plus couper la queue des chiens sans raison médicale. Mais pourquoi leur coupait-on la queue? Et qu'est-ce qui a poussé les vétérinaires à arrêter? Je t'en apprends plus sur cette décision importante. Pourquoi la queue de certains chiens était-elle coupée? Autrefois, on coupait la queue des chiens de certaines races quand ils étaient jeunes. Pourquoi? Pour éviter des blessures chez les chiens de chasse ou simplement par goût. Par exemple, la queue des schnauzers était systématiquement coupée parce que c'était la règle dans les concours de beauté. Mais aujourd'hui, plusieurs experts considèrent que ce ne sont plus de bonnes raisons pour pratiquer cette intervention. Quel est le problème? Cette pratique est douloureuse pour les chiots. Et ce n'est pas tout. La queue des chiens leur sert à communiquer avec les autres. Ils la remuent pour montrer qu'ils sont heureux, la dressent quand ils sont alertes et la baissent lorsqu'ils sont inquiets. Les chiens peuvent donc avoir des difficultés à interagir avec leurs semblables et même avec les humains lorsqu'ils ont la queue coupée. La queue leur sert également à garder l'équilibre et à nager, explique la vétérinaire manitobaine Samira Stuart-Altman. La coupe de la queue reste toutefois autorisée lorsque cela est nécessaire pour la santé du chien. S'il souffre d'une blessure importante ou d'une tumeur, par exemple. La différence est que l'opération est effectuée sous anesthésie générale et que des médicaments contre la douleur sont utilisés, précise la vétérinaire. des avis différents. Au Manitoba, de nombreux propriétaires de chiens sont heureux d'apprendre la nouvelle. Beaucoup de gens ne savaient pas que tant de chiens subissaient ces interventions chirurgicales. Cette nouvelle a donc été accueillie positivement par toutes les personnes à qui j'ai parlé jusqu'à présent. S'enthousiasme Samira Stuart-Altman. Mais tous ne sont pas d'accord. C'est le cas du Canadian Kennel Club, un groupe qui organise des concours de beauté pour chiens. Selon ce club, les vétérinaires devraient pouvoir encore couper la queue d'un chien. Samira croit que plus les gens seront conscientisés au bien-être animal, plus ce genre de pratique inutile sera abandonné. Je crois que l'éducation et la sensibilisation sont essentielles dès le départ, et cela doit commencer dans les salles de classe. L'empathie envers les animaux, les personnes et l'environnement, ça va de pair, affirme la vétérinaire. Et le reste du Canada? Le Manitoba rejoint d'autres provinces qui ont déjà interdit les opérations pour modifier l'apparence des animaux. En Nouvelle-Écosse, au Québec et à l'île du Prince-Édouard, il est aussi interdit de couper la queue ou les oreilles des chiens ou encore de dégriffer les chats. Reste à voir si les autres provinces vont emboîter le pas. Toi, es-tu d'accord avec cette nouvelle règle? Et ton chien? Il est une fois Brigitte, l'amie qui recharge les batteries. Un texte de Frédéric Lavoie, paru le 14 février 2025 dans les As de l'Info. Il est une fois, à notre époque, une dame qui rend chaque jour un service très simple à des gens qui en ont vraiment, vraiment besoin. Elle recharge gratuitement leur téléphone cellulaire. Cette dame s'appelle Brigitte. Et ces gens, ce sont des migrants, c'est-à-dire des personnes qui ont quitté leur pays natal pour fuir la violence ou la pauvreté à la recherche d'un meilleur endroit où vivre sur cette planète. Tout a commencé il y a environ 30 ans. Quand un migrant assoiffé a sonné à la porte de Brigitte pour lui demander un verre d'eau. Elle lui en a donné un. Brigitte n'était pas surprise de voir un migrant. Près de sa maison se trouvait un camp de tentes où dormaient des centaines d'entre eux, parfois depuis des semaines, des mois ou même des années. Ils venaient de différents pays, mais s'étaient tous retrouvés dans cette ville côtière pour la même raison. Ils voulaient traverser la mer pour se rendre au pays de leurs rêves, sur un bateau ou en empruntant le long tunnel sous-marin qui relie les deux pays. Selon les lois, ces migrants n'avaient pas le droit de camper là. Avec les papiers d'identité qu'ils possédaient, ils n'avaient pas non plus le droit d'entreprendre cette traversée. Ils avaient donc souvent des soucis avec la police et aussi avec les habitants du coin. Car plusieurs voisins de Brigitte n'aimaient pas voir autant de jeunes hommes étrangers dans leur quartier. Brigitte comprenait les peurs de ses voisins, mais pour elle, il était hors de question de ne pas aider les gens dans le besoin, migrants ou non, étrangers ou non. Elle avait grandi dans une famille de 7 enfants avec des parents très généreux. Une année, par exemple, ses parents avaient invité 3 petites filles d'une famille plus démunie à célébrer Noël avec eux. Et ces petites filles avaient reçu en cadeau exactement la même poupée que Brigitte et ses sœurs. Après l'homme qui a demandé un verre d'eau, d'autres migrants sont venus sonner à la porte de Brigitte. Le mot s'était passé. Dans cette maison bleue habite une dame qui aide les migrants. Chaque jour, ils étaient plus nombreux, avec des demandes différentes. Brigitte faisait de son mieux pour les aider, mais elle avait très peu de temps pour se reposer. Parfois, jusqu'à 50 personnes venaient sonner chez elle, à toute heure du jour ou de la nuit. Brigitte a donc dû instaurer un horaire. Elle leur ouvrirait son garage à des heures fixes pour leur servir du café, du thé et parfois de la nourriture. Il pourrait aussi utiliser son lavabo pour se brosser les dents ou même pour se laver les cheveux. Au fil du temps, une demande est devenue de plus en plus importante. Tout le monde avait besoin de recharger son téléphone cellulaire. Pour les migrants, un téléphone est un outil essentiel. Il leur sert à garder contact avec leur famille, à s'orienter sur les routes de pays étrangers, à savoir l'heure qu'il est, à chercher des informations et aussi à se divertir. Car le temps peut être très long quand on rêve d'un avenir sans savoir comment il pourra devenir réalité. Pour répondre à cette demande, Brigitte a fait installer 85 prises de courant dans son garage. Depuis, beau temps, mauvais temps, ils sont des dizaines chaque matin à faire la file devant chez Brigitte pour lui remettre leur téléphone. Elle leur donne en échange un coupon numéroté, question d'éviter les mélanges d'appareils. Et quelques heures plus tard, ils viennent récupérer leur téléphone maintenant chargé à 100%. Et c'est ainsi que Brigitte est devenue mamie charge pour des milliers de migrants. C'est le surnom qu'ils lui ont donné. Tous savent maintenant que, s'ils passent par cette ville au cours de leur long et difficile périple vers un avenir meilleur, ils peuvent s'arrêter chez cette grand-maman au grand cœur. Elle rechargera non seulement leur téléphone et leur ventre, mais leur offrira aussi un peu de chaleur, de réconfort et de douceur, à condition de se présenter à l'heure. Cette histoire est bien vraie. Brigitte Lips, 69 ans, habite à Calais, une ville du nord de la France. De nombreux migrants passent par ici dans l'espoir de traverser une étendue d'eau appelée la Manche pour rejoindre les côtes de l'Angleterre à 50 kilomètres de là. Mamie Charge ne prend jamais de vacances. Son objectif est que les gens adoptent un regard plus positif envers les migrants. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.